poursuit évidemment l'aventure jusqu'à 20h avec vous au 01 80 20 39 21. Si vous nous rejoignez, on décrypte l'actualité et on va évidemment revenir sur ces menaces de grève qui se multiplient avec l'approche des JO. On est à 92 jours de ces Jeux Olympiques. Alors, d'un côté, les aiguilleurs du ciel qui parviennent à leur fin, qui trouvent un accord in extremis, on vient d'en parler. La SNCF aussi qui capitule lundi face à la menace des syndicats. Bonjour Agnès Verdier-Moulinier.
Bonjour.
Bonsoir même, directrice, puisqu'il est 19h34, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. On parle de paix sociale, mais à quel prix ? Combien va nous coûter, nous contribuables, ces accords trouvés ? On va commencer par la SNCF.
Écoutez, c'est la question, j'allais dire, à 100 euros, parce que finalement, on a très, très, très peu d'informations. Et nous, à la Fondation IFRAP, nous qui aimons bien, justement, chiffrer, eh bien, on s'est creusé un peu la tête pour essayer d'évaluer combien pourrait coûter cet accord, ne serait-ce que l'accord SNCF. Et au maximum du maximum, il nous apparaît qu'il pourrait coûter environ 10 fois plus cher que ça coûte aujourd'hui, oui. Cette possibilité de partir plus tôt, en fait, cette espèce de pré-retraite un peu spéciale, qui existait déjà, en fait, depuis la réforme de 2008, c'était déjà quelque chose que nous avions critiqué à l'époque. Puisque déjà à l'époque, la SNCF avait conclu des accords avec un échelon supplémentaire, avec des revalorisations de salaire, etc., etc., qui annulaient le décalage déjà d'âge qui avait été adopté sous Nicolas Sarkozy. Ben, on rejoue le même film, sauf que ça va coûter beaucoup plus cher. La Cour des comptes dit que cette cessation progressive d'activité par an, elle coûtait dans les 30 à 35 millions d'euros, mais c'était utilisé que par environ 10 à 12% des agents concernés. Maintenant, avec cette possibilité d'être payé pour les conducteurs pendant 18 mois à 100% en travaillant et ensuite à 75% sans travailler et puis un peu moins pour les contrôleurs par exemple, mais ça va être beaucoup plus incitatif. Alors, il y aura peut-être pas 100% des personnes concernées qui l'utiliseront. Mais au maximum du maximum, ça pourrait être 300 millions. Alors peut-être qu'en réalité, ce sera que une centaine de millions. Mais quand on dit que une centaine de millions, c'est déjà énorme.
Parce oui, c'est
que,
colossal.
Faut dire que déjà, le contribuable français, par l'État, finance pour équilibrer le système de pension des agents de la SNCF, des cheminots de la SNCF, qui est donc très déficitaire. Il verse plus de 3 milliards d'euros par an. Donc, c'est quand même dommage que le petit effort qu'on demandait, c'est-à-dire de passer de 52 ans à 54 ans pour les conducteurs et puis de 57 à 59 pour les contrôleurs, finalement... soit quasiment annihilé, parce que quand on regarde, et là aussi on a des problèmes de chiffrage, quand on regarde l'effet de la réforme des retraites qui a été adoptée, la dernière réforme des retraites adoptée, on se rend compte qu'on n'a pas l'économie annuelle chiffrée non plus par le gouvernement ou par les parlementaires, mais on sait que celle de 2008, en régime de croisière, elle économisait environ 300 millions d'euros par an.
C'est ça.
Donc vous voyez, il y a pas loin à imaginer que cet accord là, SNCF, il va quasiment supprimer l'essentiel des effets de la réforme.
Et quand on sait qu'effectivement, le contexte économique est très compliqué, il y a la dette publique, il y a aussi tous ces Français qui se serrent la ceinture en ce moment, et là, ce coup de poignard, on peut le dire, dans la réforme des retraites, il a du mal à être accepté aussi par les usagers qui sont en plus menacés à chaque fois d'être condamnés à rester chez eux, ne pas pouvoir voyager. C'est la double peine.
Oui, on se souvient des vacances de février qui ont été absolument ubuesques pour beaucoup de nos concitoyens, avec des annulations juste quelques jours avant des trains, des obligations de se reporter sur d'autres trains quand il y en avait, d'annuler complètement les déplacements. Enfin, tout ça est extrêmement dommageable. Et puis, on est vraiment dans un chantage là des syndicats par rapport à la période des Jeux Olympiques. Nous, on s'y attendait vraiment et on trouve très très dommage que le gouvernement n'ait pas embrayé suite au vote de la proposition de loi au Sénat cette proposition DLR qui était tout à fait cohérente, d'ailleurs qui reprenait ce que nous avions écrit nous dans pas mal d'études, où on montrait que par exemple les Italiens avaient certes un droit de grève, tout aussi finalement fondamental que le nôtre, mais qui néanmoins n'allait pas à l'encontre de ce droit aussi fondamental d'avoir un service public de transport assuré pour les citoyens. Et les Italiens sanctuarisent les périodes d'élections, les périodes de vacances, les périodes de fêtes importantes comme Noël ou Pâques.
C'est pas encore le cas chez nous. Et Bruno Retailleau, oui, pardon.
Et c'est dommage que cette proposition de loi qui a été adoptée début avril n'ait pas été finalement plébiscitée ou choisie par le gouvernement pour ensuite être votée à l'Assemblée nationale. C'était très simple, ce qu'il proposait, c'était 60 jours par an maximum pendant lesquels il n'y avait pas de possibilité de bloquer en fait tout un pays ou tous les visiteurs de ce pays, parce qu'aujourd'hui il faut voir l'image que ça donne de la France.
Et surtout à 92 jours des Jeux, vous l'avez dit effectivement, avec le chantage très facile avec la menace de bloquer les Jeux. Alors vous restez évidemment avec nous, Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation IFRAP et auteure de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire, parce qu'on a des auditeurs qui veulent intervenir. Vous êtes très nombreux à réagir sur le sujet. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, retraitée, mais vous travaillez
avec
encore,
plaisir.
vous nous écoutez en Gironde. Alors vous souhaitiez réagir sur ce sujet qui concerne la SNCF et les aiguilleurs du ciel.
Ben écoutez, j'ai juste envie de rebondir aussi ce que disait l'intervenante précédente, avec quoi je suis complètement d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai une carrière de soignante, hospitalière longue, par choix, et puis j'ai travaillé et dans le privé et dans le public, donc j'ai quand même un panel assez large. Mm-hmm. Public que j'ai quitté pour avoir reçu des menaces de mort pour essayer de remettre de l'ordre dans le bazar qui avait été instauré par les syndicats et le personnel. Mon sentiment aujourd'hui et mon premier sentiment depuis ce début de semaine, c'est ils n'ont aucune pudeur, ils n'ont aucune retenue. Je suis scandalisée.
Vous mettez dans le même panier, j'ai envie de dire,
les contrôleurs,
les cheminots et les aiguilleurs du ciel.
Bien entendu, puisque de toute façon, ils ont la mainmise, ils ont le pouvoir. Forcément, qu'est-ce qui paye au bout du compte? On voit ces familles qui peuvent pas partir en vacances, ces gens qui peuvent pas se retrouver au jour de l'an. Maintenant, la mainmise qui est mise sur ces JO qui devait être une fête nationale. Enfin, on avait un moyen de se réjouir, enfin, dans ce paysage qui est quand même pas très gai, ces dernières années. Et ils se servent de ça pour mettre parce que le gouvernement a forcément accepté, puisqu'on les ébrille par leur silence aujourd'hui, pour mettre à genoux le gouvernement. Mais quelle honte. Mais qui peut me dire qu'un contrôleur a un métier dans un train, a un métier fatigant? Qui peut me dire aujourd'hui qu'un pilote de train, un conducteur de train a un métier fatigant aujourd'hui? Non mais, attendez, mais c'est une honte. Il n'y a aucune pudeur.
Valérie, vous restez
avec
nous.
Je suis infirmière à la base. Et je peux vous dire que là, on peut parler de métier. Et pourtant, vous les entendez beaucoup, les soignants, vous Moi, pas.
Vous restez avec nous, Valérie, parce qu'on a Jean-Charles qui nous écoute dans les Hauts-de-Seine, qui veut réagir aussi. Bonsoir, Jean-Charles.
Bonsoir.
Merci. Alors vous, votre avis, votre position par rapport à cette grève, ces accords qui sont trouvés, ces menaces de grève, ce chantage?
Moi, je pense qu'il y a une énorme différence entre ce qui se passe à SNCF et ce qui se passe au niveau des contrôleurs aériens. Au niveau de la SNCF, c'est à l'achat d'une paix sociale pour éviter que les grèves de février ne se reproduisent. Alors que la grève sur le contrôle aérien, enfin le préavis de grève d'ailleurs qui a été levé, c'est une réponse, des contrôleurs aériens face, à un projet qui est en cours et qui d'ailleurs auquel ils adhèrent, qui est d'augmentation de la productivité, qui va se traduire pour leur part par plus de travail.
Alors ils ont un statut, pardon, je vous coupe un instant, assez privilégié, avantageux même, retraite à 59 ans, semaine de 32 heures, voilà, les aiguilleurs du ciel ont des salaires aussi qui peuvent avoisiner 5 500 bruts dès l'obtention de leur qualification, quelques années après leur arrivée au centre de contrôle.
Oui, alors je pense que oui. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, mais je crois que le point il y a deux éléments là-dessus. D'abord, premièrement, c'est que les contrôleurs aériens sont des gens qui ont un diplôme équivalent à un diplôme d'ingénieur, puisqu'ils sont recrutés par un concours, le même concours que celui pour les écoles d'ingénieurs, après maths spé. Donc c'est-à-dire deux années difficiles de un concours sélectif, puis trois années d'études. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer le salaire d'un contrôleur aérien à le salaire d'un, d'un contrôleur SNCF, puisque de toute façon, ils n'ont pas les mêmes niveaux de formation, ni non plus d'ailleurs les mêmes contraintes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, les salaires. Et les salaires des contrôleurs aériens en France, et c'est public, et d'ailleurs, il suffit de regarder, il y a eu des études qui ont été faites par le Sénat et par le, au niveau de l'Assemblée nationale. Je veux dire, les salaires des contrôleurs aériens français sont, je dirais, inférieur au salaire des contrôleurs aériens dans les autres pays européens. Donc il faut juste savoir.
Non mais ce qui interpelle, pardon Jean-Charles, c'est le timing, c'est-à-dire que il y a un enchaînement des grèves avec effectivement l'approche des JO. On voit que ça marche pour la SNCF. Le lendemain, voilà, on a les aiguilleurs du ciel qui prennent le pas. On a la sensation d'être pris en otage, nous les usagers, les contribuables.
Donc deux éléments, je pense que et je veux dire. Pourquoi je réagis, c'est qu'en fin de compte, il s'est trouvé qu'il y a trois semaines, il y a eu un certain nombre d'articles dans les Échos, le journal des Échos, sur la réforme en cours du contrôle aérien qui détaillait exactement très bien la situation et ce qui est en train de se passer. Ce qui se passait, c'est que les contrôleurs, ils sont en négociation avec la DGAC, enfin la Direction Générale, sur comment mettre en place ces nouvelles conditions de travail, ces nouveaux protocoles d'accord, cette augmentation des charges, des heures de travail, et également, il faut savoir aussi, d'une réduction des effectifs dans un certain nombre d'endroits. C'était mentionné que un certain nombre d'effectifs vont être supprimés. Donc, comment mettre en place? Déjà assez, donc, ce que j'ai cru comprendre, puisque j'ai écouté ce matin dans une autre radio. D'accord? La DGAC, c'est simple. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que, si j'ai bien compris, la DGAC était partie sur une sorte de... Généralement, comme dans toute négociation, on a une sorte de ligne directrice donnant les points. La DGAC est revenue il y a une semaine ou deux semaines avec un protocole qui était complètement différent de ce qu'ils avaient annoncé.
On comprend, Jean-Charles, on a compris...
Vous êtes dans une situation.
On a compris. Pardonnez-moi, Jean-Charles, du côté des Hauts-de-Seine, que vous expliquiez que les contrôleurs aériens, eux, se battent contre leurs conditions de travail, et vous différenciez vraiment le combat des aiguilleurs du ciel à celui des contrôleurs ou des cheminots de la SNCF. Agnès Verdier-Molinier, pour conclure, voilà, il y a deux stades, deux ambiances. Pour vous, on les met dans le même panier?
Écoutez, moi, j'aurais plutôt tendance à faire la différence entre les coûts pérennes et non pérennes. C'est-à-dire qu'il y a des primes qui sont données à la RATP, à la SNCF, par exemple, qui ont déjà été, ou même aux policiers, ou même dans les hôpitaux, qui ont déjà été négociées. Ces primes, elles sont données. Pourquoi? Parce qu'il y aura, en fait, un surcroît de travail pendant les Jeux, et on peut tout à fait comprendre que ce soit assez logique, même si on aimerait avoir un chiffrage global de ce que ça va représenter sur l'ensemble des fonctions publiques, l'ensemble de la dépense publique. Ça, ce sont les coûts non pérennes. Là, ce qui me gêne, moi, avec l'accord SNCF, et c'est le cas aussi pour les contrôleurs aériens, c'est que finalement, ils se servent de cette période pour obtenir des choses qu'ils n'auraient pas obtenues sinon. La période des Jeux Olympiques, pour avoir des dépenses pérennes qui vont être payées par l'ensemble des citoyens français pendant des années. C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire qu'en plus, on ne connaît même pas les clauses de l'accord sur le contrôle aérien. Autant sur l'accord SNCF, on ne connaît pas le coût. Attendez, pourquoi? Comment se fait-il que finalement, une dépense qui va être une dépense publique, de surcroît de rémunération, alors que même Jean-Charles n'expliquait pas assez bien ce qu'ont aujourd'hui les contrôleurs aériens, c'est qu'ils peuvent globalement faire baisser en moyenne 25% de leur temps de travail, où ils continuent à être payés avec un système de clairance où finalement ils sont pas au travail mais ils sont quand même payés. C'est quand même un peu abusif par rapport à la question justement de servir le service public.
Merci beaucoup.
Quand on est payé en face. Donc là il y a un vrai sujet. Ce sont des dépenses supplémentaires qui vont être payées par les Français pendant des années.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier pour ce décryptage très intéressant, directrice de l'IFRAP. Un grand merci à vous. On se retrouve dans quelques instants évidemment sur Europe.